Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, le Premier ministre Bobou Cissé a affirmé hier que l'opposition était fortement désirée au sein d'un gouvernement d'union nationale avant de se déplacer jusqu'au domicile de la figure de proue du mouvement de contestation, l'imam Diko. Nous y reviendrons dans un instant. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle à Bruxelles, après son acquittement par la CPI, demande aux autorités ivoiriennes de lui établir un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire, a annoncé son avocate, Maître Habiba Touré. Son parti, le FPI, le presse de se présenter au scrutin présidentiel d'octobre. En attendant, le RHDP au pouvoir doit aujourd'hui à Abidjan choisir son candidat à cette présidentielle. Nous y reviendrons également. Au Niger, Samira Sabou, une journaliste blogueuse accusée de diffamation dans ses publications sur l'affaire des surfacturations d'achat d'équipements militaires, a été relaxée et libérée de prison par la justice ce mardi, selon son avocat. Elle était jugée pour diffamation après une plainte déposée par Sani Mahamadou Issoufou, le fils et directeur de cabinet adjoint du président Mahamadou Issoufou. La mission conjointe de l'Union africaine ONU au Darfour a appelé hier Khartoum à déployer au plus vite les forces de sécurité au Darfour, après une série de tueries dans cette région de l'ouest du Soudan, en proie à la violence depuis plusieurs années. Une nouvelle attaque meurtrière a été perpétrée samedi dans un village du Darfour Ouest. En République démocratique du Congo, 7 militaires congolais ont été tués hier dans une embuscade tendue par le groupe armé des ADF dans le parc des Virunga, dans l'est du pays, a appris l'AFP auprès d'experts. Coronavirus, les États-Unis ont enregistré hier, avec près de 1600 morts, le plus lourd bilan journalier de décès depuis plus de deux mois, tandis que le pèlerinage de la Mecque est fortement limité et que de nombreux pays en Europe durcissent leurs restrictions sanitaires. La Chine a annoncé aujourd'hui avoir recensé 101 nouveaux cas confirmés au cours des dernières 24 heures, un record quotidien depuis trois mois et demi. Selon des résultats publiés hier, le vaccin développé par la biotech américaine Moderna en partenariat avec les NIH américains a déclenché une réponse immunitaire robuste et empêché la réplication du virus dans les poumons et les nez des singes. Le président américain Donald Trump a vanté à nouveau hier l'hydroxychloroquine et s'est posé en victime de critiques injustes sur sa gestion de la pandémie, parlant de la popularité de l'immunologue Anthony Fauci et des autres scientifiques membres de la cellule de crise présidentielle. M. Trump a dit « Ils sont très respectés, mais personne ne m'aime. Cela doit être ma personnalité. » Sous le feu des critiques des élus démocrates hier au Congrès, le ministre américain de la Justice Bill Barr a vigoureusement défendu mardi au Congrès, l'intervention d'agents fédéraux à Portland où, selon lui, les émeutes n'ont plus rien à voir avec les manifestations antiracistes consécutives à la mort de George Floyd, l'Africain-Américain asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis le 25 mai dernier. L'ancien numéro 2 de Barack Obama, Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle de novembre, a promis hier de dévoiler le nom de sa colistière la semaine prochaine. Stella Emmanuel, médecin pro-hydroxychloroquine, au centre d'une vidéo retweetée par le président Trump et supprimée par Facebook, YouTube et Twitter pour désinformation, a promis par le passé l'idée que les États-Unis étaient gouvernés par des reptiliens et que les problèmes gynécologiques étaient liés à des relations sexuelles avec des esprits du mal. La suite de nos informations, en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir, le RHDP, va tenir aujourd'hui à Abidjan une réunion pour choisir son candidat à la présidentielle d'octobre après la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Mamadou Touré, porte-parole du RHDP, parti au pouvoir, a rappelé que c'est le même bureau politique qui avait désigné comme candidat Amadou Gon Coulibaly, décédé, qui va choisir son remplaçant. Des voix se sont élevées pour demander au président Alassane Ouattara de se représenter pour un troisième mandat. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, non prévue, ce qui pourrait amener le parti à solliciter sa candidature, a expliqué M. Touré. Pour lui, le président ivoirien est, je cite, la personnalité idoine pour maintenir la cohésion du parti et la dynamique à 3 mois de la présidentielle. L'opposition conteste au président Ouattara, élu en 2010 puis réélu en 2015, le droit d'effectuer un troisième mandat en vertu de la constitution qui n'en autorise que deux. Le président estime que l'adoption de la nouvelle constitution en 2016 a remis les compteurs à zéro. Lundi, l'ancien président Ari Kona Bédier, 86 ans, a été désigné porte-étendard du PDCI. Marcel Amontano, ancien ministre des Affaires étrangères, a aussi annoncé sa candidature à la présidentielle du 31 octobre.
Le président ougandais Yoweri Museveni, qui est âgé de 75 ans, a été désigné hier par son parti candidat à la prochaine élection présidentielle prévue début 2021. Eric Manirakidza.
Selon Rogers Molindwa, porte-parole du parti présidentiel, le mouvement de la résistance nationale, il y a eu le désir au sein du parti que M. Museveni soit candidat vu son immense contribution pour le pays et pour l'Afrique. Sa candidature doit être avalisée par la commission électorale. Il devrait affronter l'opposant Bobi Wine, Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, devenu à 38 ans le porte-parole d'une jeunesse urbaine, souvent très pauvre. L'opposant Kizza Besigye pourrait lui aussi se présenter pour la 5e fois ou faire alliance avec Bobi Wine. La date de l'élection présidentielle n'est pas encore connue. La constitution ougandaise a été modifiée en 2019 pour supprimer la limite d'âge pour être candidat, permettant à Museveni, au pouvoir depuis plus de 34 ans, de se représenter pour un 6e mandat en 2021.
C'est un pèlerinage particulier qui débute aujourd'hui à la Mecque. Les fidèles musulmans sélectionnés pour le Hajj ont fini hier d'observer une quarantaine avant d'entamer un grand pèlerinage restreint. Tout a été mis en place pour éviter une propagation du Covid-19. Le point avec Abdulrahman Dia.
Entre 1000 et 10 000 pèlerins résidant en Arabie Saoudite participent à ce Hajj, alors que la Mecque a accueilli l'année dernière jusqu'à 2,5 millions de pèlerins. Cette année, ils ont été soumis à des contrôles de santé et placés en quarantaine à leur arrivée à la Mecque. Chacun a reçu un kit contenant des cailloux stérilisés pour le rituel de lapidation de Satan, des désinfectants, des masques, un tapis de prière et un vêtement blanc appelé ihram que tout pèlerin doit porter pendant le rituel du Hajj. Des ouvriers ont déjà nettoyé, recuré et désinfecté les alentours de la Kaaba au cœur de la grande mosquée. Cette année, les pèlerins ne sont pas autorisés à la toucher pour limiter les risques d'infection. Les autorités disent avoir déployé des cliniques mobiles et ambulances pour faire face à toute éventualité. Le royaume a enregistré environ 270 000 cas d'infection, l'un des taux les plus élevés du Moyen-Orient. Certains fidèles estiment que ce pèlerinage est plus aéré car loin des foules colossales qui ont abouti parfois à des bousculades et accidents mortels.
Minute éco, John Linden.
Le Bénin doit lever quelques 133 milliards de francs CFA sur le marché régional des LUEMOI le 30 juillet 2020. Il s'agit de la deuxième phase des bons sociaux COVID-19. L'opération dite émission de bons assimilables du Trésor vise à mobiliser l'épargne dans le but de couvrir les décalages des trésoreries créés par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences. La valeur nominale unitaire de cette levée de fonds est fixée à 1 million de francs CFA. Karine Energy doit récupérer 400 millions de dollars auprès de son homologue russe Lukoil en contrepartie de la vente de la totalité de sa participation de 40% dans les blocs offshore Rufisque, Sangomar et Sangomar Deep au large du Sénégal. Selon Genafrique, cette somme ne comprend pas les remboursements des dépenses d'investissement évaluées à 330 millions de dollars en 2020. Ce deal doit encore être validé par les autorités sénégalaises. Les revenus des banques nigérianes devraient gravement être affectés cette année et faire face à une augmentation des coûts d'emprunt. La Banque centrale a déjà rabaissé deux fois ses taux d'intérêt pour soutenir le Naira, la monnaie qui doit faire face à la pénurie des dollars, la chute des revenus du pétrole et les conséquences de la pandémie.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le championnat marocain de football est devenu le premier grand championnat africain à reprendre après 4 mois d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus. Peu de buts pour la reprise. Les triples champions d'Afrique du Raja Casablanca ont fait match nul 0-0 sur le terrain du Difa El Jadidi et le Hassania Agadir a battu 1-0 le Raja Casablanca. Le champion en titre, le Wydad Casablanca, reste en tête du championnat. Les prochains grands championnats qui doivent reprendre au Maghreb sont ceux de Tunisie le 2 août et d'Égypte le 6. L'Algérie n'a pas encore décidé de date de reprise, ni même si la compétition allait reprendre. En Espagne, l'attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz, a été testé positif au Covid-19 alors que son équipe doit affronter Manchester City en 8e de finale retour de la Ligue des Champions le 7 août en Angleterre. Le joueur est en parfaite santé et respecte le protocole sanitaire d'isolement à son domicile, a déclaré le club merengue dans un communiqué publié sur son site internet. Les joueurs du Real ont bénéficié de quelques jours de congé après la conquête du titre en Liga et l'achèvement de la saison en Espagne le 19 juillet. Les Citizens ont remporté le match aller 2-1 au stade Santiago Bernabéu en Espagne donc, le 26 février dernier, avant la suspension de la compétition européenne pour cause de pandémie de nouveau coronavirus. Athlétisme, la fédération russe, RUSAF, a demandé à la fédération internationale de ne pas se prononcer sur une possible suspension des athlètes russes dont la réintégration sous drapeau neutre est menacée après le non-paiement d'une amende pour dopage. Dans une lettre adressée au président du World Athletics, Sébastien Coué, la RUSAF a demandé à ce que soit étudiée, je cite, la possibilité de reporter une telle décision compte tenu de son travail déjà effectué pour lutter contre le dopage. Cette demande intervient alors que le conseil du World Athletics doit examiner l'éventualité d'une suspension complète des athlètes russes lors d'une réunion les 29 et 30 juillet. Début juillet, la Fédération internationale a annoncé le gel provisoire du processus de réintégration des athlètes russes sous bannière neutre, car la RUSAF n'a pas payé à temps une amende infligée pour violation des règles antidopage.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédounia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le cabinet restreint de 6 membres a tenu hier son premier conseil alors que le M5-RFP se prépare à reprendre la désobéissance civile après la trêve en cours. Les contestataires rejettent en bloc les recommandations de la CDAO qu'ils qualifient de non conformes aux attentes et aspirations du peuple malien. Les partis de la majorité saluent la CDAO pour ses recommandations qui, selon eux, peuvent être des pistes de sortie de crise. Dans la même foulée, le Premier ministre a rendu visite à l'imam Diko, histoire de lui présenter le nouvel attelage gouvernemental restreint. Kassim Traoré nous en dit plus de Bamako.
Les membres du gouvernement restreint, après leur nomination, ont échangé avec le Premier ministre Boubou Cissé. C'était à la faveur du premier conseil de cabinet.
Un appel sincère à nos sœurs et à nos frères du M5-RFP et d'autres regroupements. J'aimerais dire qu'ils sont attendus et même fortement désirés dans ce prochain attelage gouvernemental qui doit être mis en place incessamment. J'ai confiance, chaque membre de cette équipe restreinte a confiance et nous allons nous mettre au travail immédiatement pour pouvoir arriver à cette situation-là.
Cette équipe gouvernementale est la plus restreinte de l'histoire du Mali, mais elle n'est pas du goût du M5-RFP. Maître Moutagatal, membre du M5-RFP.
Il ne s'agit pas pour le M5, qui est le porte-voix du peuple malien aujourd'hui, de venir occuper des postes dans un gouvernement. Il s'agit au contraire de refonder notre pays sur des bases très claires et qui pourraient seul permettre la survie du Mali. Le gouvernement d'union nationale a des règles bien connues, qui commencent par un premier ministre de consensus. Pour ce gouvernement, nous ne sommes ni demandeurs ni preneurs.
Les leaders de la majorité trouvent que les recommandations de la CEDEAO peuvent aider le Mali à trouver le bout du tunnel. Tiamat Ibrahim Koulibaly, membre de la majorité présidentielle.
Au total, moi je crois que ce que propose la CEDEAO est une piste. Depuis le début, nous avons estimé que la CEDEAO proposait des bases de travail crédibles et qu'il fallait suivre cela. Donc mon point de vue est que immédiatement, ici et maintenant, il faut s'approprier ce que la CEDEAO propose et tout faire pour mettre ça en œuvre rapidement pour que progressivement la confiance qui a été perdue entre les acteurs politiques puisse revenir.
Après une réunion du comité stratégique, le M5-RFP décide de reprendre les manifestations après la fête de l'Aïd El-Kébir. Chogel Kokala Maïga, porte-parole du M5-RFP.
Les décisions de la CEDEAO, ces décisions d'abord violent totalement la constitution de la République du Mali. Ces décisions ne donnent satisfaction à personne, si ce n'est à Ibeka lui-même. Et nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons expliqué ça à l'imam Diko, que le M5-RFP a décidé de continuer son combat jusqu'à obtenir par les voies démocratiques et pacifiques la démission d'Ibrahim Bokar Keïta. La trêve qui a été observée, les manifestations de contestation du régime suivant nos droits constitutionnels, c'est-à-dire à la désobéissance civile, vont reprendre 48 ou 72 heures après la fête de Tabaski.
Pour les observateurs, la recherche de solutions devra prendre en compte les besoins d'amélioration du quotidien des Maliens ainsi que la nécessité d'instaurer un contrat social. Baba Dakono, chercheur.
On retient principalement que la crise actuelle, elle est beaucoup plus profonde que telle que présentée aujourd'hui. C'est une crise qui va au-delà des personnes qui sont très souvent indexées. C'est une crise qui porte sur les institutions, une crise de confiance entre les citoyens et les institutions, mais aussi une crise de confiance entre les citoyens et les acteurs politiques.
Hier, en fin d'après-midi, le Premier ministre Boubou Cissé s'est rendu chez l'imam Mahmoud Diko pour lui présenter le nouvel attelage gouvernemental restreint. Il a demandé à l'imam de s'impliquer pour que les acteurs du M5-RFP acceptent la main tendue du chef de l'État en rejoignant le gouvernement d'union nationale et en privilégiant le dialogue comme solution incontournable de sortie de crise. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans, a été investi par son parti, le PDCI, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre. Au sein du parti au pouvoir, le RHDP, des voix s'élèvent pour demander au président Alassane Ouattara de se représenter après la mort de leur candidat Amadougon Koulibaly. Le FPI reste divisé avec deux branches. Au micro de Yacouba Ouédraogo, Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus à Abidjan.
Henri Konan Bédié, en partant cette convention, était parti pour être plébiscité, surtout que le seul candidat qui devait être son talendeur, l'ancien député de Port-Boué, ancien président de la jeunesse, avait été éliminé.
Rappelons que l'ancien député de Port-Boué, c'est celui communément appelé Kakabé Kwasi Konan Bertin. Alors, parlant toujours du PDCI, on a entendu Jean-Louis Billon évoquer l'hypothèse d'un report de l'élection présidentielle serait pour. Ensuite, il est le chargé de communication du PDCI RDA. Le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Dikawe, a dit que cela n'engageait que Jean-Louis Billon et que ce n'est pas le point de vue du PDCI. On sent un peu de cacophonie au sein du parti.
La voix officielle du PDCI, c'est le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou Dikawe. Mais cela dit, le report dont on parle en ce qui concerne les élections sont un peu sur toutes les lèvres aujourd'hui. Quand on regarde le délai qui reste à atteindre le cap du 31 octobre, quand on regarde aussi le processus électoral, la tâche qui reste à accomplir pour arriver à un processus transparent, libre et ouvert à tous, surtout avec, en prenant en compte la dernière décision qui est sortie de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on se dit finalement, est-ce que ces élections vont se tenir? Surtout qu'au niveau du parti au pouvoir, leur candidat qui avait été désigné est décédé.
Au sein du RHDP, le parti au pouvoir, il y a des voix qui s'élèvent pour demander au président Alassane Ouattara de rebeloter pour un troisième mandat après la mort de l'ancien premier ministre, candidat du RHDP, Amadougon Koulibaly. Faut-il s'attendre à ce que Ouattara accède à leur demande?
Ce ne sera pas non plus une surprise de voir le président de la République candidat à un troisième mandat ou à sa propre succession. Vous voyez partout, il est réclamé. Il est évident qu'un troisième mandat du président de la République ne manque pas de choquer certains de l'opposition et même d'autres voix des juristes se sont prononcés là-dessus en disant qu'il n'y est pas possible, juridiquement possible d'aller aux élections pour un troisième mandat. Dans son camp, il s'est dit qu'avec la nouvelle constitution qui avait été adoptée en 2016, ça remettait les compteurs à zéro. Mais ce qui est sûr, il y a à parier que les mêmes poids lourds qu'on a rencontrés en 2010 se retrouvent encore en 2020 pour la bataille présidentielle.
Alexis Tano, journaliste et analyste politique à Abidjan.
Abdourahmane Dia avec vous, cette semaine dans Washington Forum. En Afrique, comment relancer l'économie durement touchée par la pandémie de Covid-19? Les dirigeants de l'Union européenne ont récemment conclu un accord sur un plan de relance après de longues et difficiles négociations. Quelques 750 milliards d'euros seront mobilisés pour aider l'Europe à redynamiser son économie post-Covid. Mais en Afrique, on note une absence de réponse coordonnée. Qu'est-ce qui explique ce manque de réponse à l'échelle régionale ou continentale? L'annulation de la dette est-elle la solution? Rendez-vous jeudi 30 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Sénégal, de nombreux malades de la COVID-19 refusent d'aller à l'hôpital, craignant la stigmatisation. Une donne qui pousse les autorités sanitaires à faire effectuer des traitements à domicile. Pour lutter contre cette stigmatisation et soulager les malades et les autorités sanitaires, les acteurs communautaires se sont impliqués à travers l'initiative dénommée Nawetan COVID-19. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Persécution, mise à l'écart, pression sociale, la stigmatisation des malades de la COVID-19 est de plus en plus accrue et les personnes testées positives sont sidérées par cette situation. Papa Baba Kébé, récemment guéri du coronavirus, affirme qu'il ne comprend pas réellement pourquoi les gens s'acharnent sur les cas positifs.
Si on a le virus, c'est pas parce qu'on a été sale, c'est pas parce qu'on a été négligent, c'est pas parce qu'on a été, je sais pas, parce qu'on s'est laissé aller. Non, c'est quelque chose qui doit arriver. Et quand ça doit arriver, ça t'arrive, tu n'y peux absolument rien. Tu n'y peux absolument rien. Donc, je ne comprendrai jamais ces gens qui fuient les malades, qui essaient de les éviter, de les stigmatiser. Je ne les comprendrai jamais, jamais, jamais. Puisque nous faisons face à un ennemi inconnu qui se déplace à tout va, un ennemi invisible. Donc, je peux dire que voilà, la stigmatisation n'a pas lieu d'être.
La maladie a fait l'objet d'un rejet, voire d'un certain déni de la part des populations à cause de la méthode non inclusive utilisée au départ par les autorités. C'est l'analyse du sociologue Djibi Diakhaté qui a décidé de lancer l'initiative Navetan COVID-19 en partenariat avec les collectivités locales et les acteurs communautaires pour sensibiliser et impliquer les populations.
Les périodes des vacances sont des périodes de compétition entre des associations sportives et culturelles qui évoluent dans des quartiers différents. C'est une effervescence populaire sans précédent autour du mouvement Navetan, donc qui est un mouvement de compétition sportive et essentiellement articulé autour du football pendant les grandes vacances. Alors nous avons dit dans quelle mesure il faut utiliser cet appareil pour mobiliser les communautés autour de la lutte contre la transmission communautaire. Et donc l'idée, c'est au lieu de mettre les équipes de football face à face autour d'une compétition de football, de les mettre face à face autour d'une compétition de sensibilisation et de communication de proximité.
Sur le terrain, les ASC, les associations sportives et culturelles, s'activent à faire du porte-à-porte pour capter l'attention des familles et avoir un impact sur elles. Ces jeunes, considérés comme les acteurs communautaires les plus proches des populations, rencontrent cependant des difficultés dans la sensibilisation, comme l'indique Mao Diouf de la ASC Grand Yoff.
Beaucoup prennent cette maladie comme une maladie de la honte. Donc, à travers le Navetan COVID, on sensibilise, on conscientise les populations par rapport à la maladie d'un point de vue général, c'est-à-dire respecter les mesures barrières. Et sous un autre angle, nous essayons tant bien que mal de réveiller les esprits, de leur faire comprendre que cette maladie, c'est une maladie comme toute autre maladie. Donc, il n'y a pas de honte à être atteint. Toute personne affectée par le virus doit avoir un soutien médical, plus encore, un soutien moral.
Pendant un mois et demi, les ASC seront en compétition pour développer des actions de sensibilisation visant à mobiliser les leaders communautaires et à mettre en place un dispositif de surveillance et de vigilance citoyenne afin de couper la chaîne de transmission communautaire de la COVID-19. L'association sportive et culturelle qui sera la plus performante sera sacrée championne des Navetan COVID-19. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Jill Biden a pris un congé de son poste d'enseignante pour apporter son aide à la campagne de son époux Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de novembre. Madame Biden connaît très bien les rouages de Washington, puisque son mari a passé 36 ans au Sénat américain et 8 ans en tant que vice-président de Barack Obama. Caroline Presutti de la VOA nous propose ce portrait de Jill Biden que reprend ici Jacques Aristide.
Jill Biden tient ces jours-ci des rassemblements virtuels pour soutenir son époux. Celui-ci s'adresse à un groupe de femmes de la communauté hispanique du pays. La veille, elle se trouvait dans une école communautaire. Un lieu qui lui tient à cœur.
Je suis Jill Biden et j'ai l'honneur d'être enseignante dans un collège communautaire.
Jill Biden est devenue la toute première deuxième dame des États-Unis à occuper un emploi rémunéré hors de la Maison-Blanche, alors que son mari était vice-président.
Beaucoup de mes étudiants ne savent pas que j'ai deux emplois.
Au cours d'une cérémonie universitaire, elle avait raconté l'histoire d'un élève qui a couru dans sa classe en disant «
Dr. B, je vous ai vu hier soir à la télévision avec Michelle Obama et j'ai appelé ma mère et j'ai dit « Maman, maman, c'est ma professeure d'anglais ». Et ma mère m'a dit « C'est pas ton professeur, c'est la deuxième dame ».
C'est Si Joe Biden est élu, Jill Biden serait la première épouse d'un président à avoir obtenu un doctorat. Bien que le couple Biden considère le petit état du Delaware comme son lieu de résidence, Jill Biden a accompagné Joe tout au long de ses 21 dernières années en tant que sénateur démocrate à Capitol Hill et de ses 8 ans à la Maison Blanche, où elle aimerait revenir pour au moins 4 autres années.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.